Chapitre 12, dans lequel l'homme de la colline continue son histoire. J'avais recouvré ma liberté, dit le vieillard, mais j'avais perdu ma réputation. Car il y a une énorme différence entre un homme purement et simplement acquitté d'un crime dans une cour de justice et celui qui l'est au fond de son cœur et dans l'opinion publique. J'avais le sentiment intérieur de mon crime et je n'osais regarder personne en face. Je résolus donc de quitter Oxford dès le lendemain matin, avant que la lumière du jour m'exposât à être reconnu de qui que ce soit. Quand je fus tout à fait hors de la ville, il m'entra tout d'abord dans la tête de retourner chez mon père et de tâcher d'obtenir mon pardon. Mais comme je n'avais aucune raison de douter qu'il ne sût tout ce qui s'était passé, et que j'étais bien sûr de l'extrême indignation que lui inspiraient toutes les actions lâches et malhonnêtes, je ne pouvais entretenir aucune espérance qu'il daignât me recevoir, surtout avec la certitude que j'avais de tous les bons offices que ma mère ne manquerait pas de me rendre. Et même quand j'aurais été aussi sûr du pardon de mon père que je l'étais de son ressentiment, je me demandais encore si j'aurais eu l'assurance de le regarder en face, ou si, à quelque condition que ce fût, j'aurais pu me soumettre à vivre habituellement avec ceux qui savaient déjà sans doute que je m'étais rendu coupable d'une action si basse. Je me hâtai donc de retourner à Londres, la meilleure des retraites pour le chagrin ou pour la honte, excepté quand on y joue un très grand rôle. Car vous y avez l'avantage de la solitude, sans aucun de ses inconvénients, puisque vous pouvez être seul et en compagnie tout à la fois. Et tandis que vous vous promenez ou restez assis, sans être observé de personne, le bruit, le tumulte, une succession constante d'objets toujours nouveaux, amuse l'esprit et l'empêche de se dévorer lui-même, ou plutôt de se rassasier de chagrin et de honte, aliments dangereux dont on se nourrit dans la solitude avec un excès toujours funeste. Mais comme il n'y a presque aucun bien sur la terre qui n'ait son mal à côté de lui, il y a des gens qui se trouvent une sorte d'inconvénient à ne pas être observés du tout. Je veux dire ceux qui n'ont pas d'argent. Car par la même raison que vous ne rougissez pas devant ceux qui ne vous connaissent pas, vous n'avez aucun droit d'en attendre des secours. Et un homme peut aussi facilement mourir de faim dans le marché de Leadenhall qu'au sein des déserts de l'Arabie. J'étais alors guéri de ce grand mal si redouté par plusieurs auteurs qui, je le suppose, en étaient accablés. Je veux dire que j'étais sans argent. Avec votre très humble permission, monsieur, dit Partridge, je ne me rappelle aucun auteur qui ait appelé l'argent malorum un mal, mais irritamenta malorum. Fort bien, monsieur, continua le vieillard. Que l'argent soit un mal, ou seulement la cause d'un mal, j'en étais entièrement dénué, ainsi que d'amis et même, à ce que je croyais, de simples connaissances, quand un soir, traversant la cour intérieure du Temple, mourant de faim et dans la plus extrême misère, j'entendis soudain quelqu'un qui m'appelait, avec beaucoup de familiarité, par mon nom de baptême. En me retournant, je le reconnus sur le champ pour avoir été un de mes camarades de collège qui avait quitté l'université longtemps avant tous les malheurs qui étaient tombés sur moi. Ce jeune homme, dont le nom était Watson, me serra cordialement la main et, après m'avoir témoigné une grande joie de m'avoir rencontré, me proposa aussitôt de boire une bouteille de vin avec lui. Je refusai d'abord la proposition et prétextai une affaire, mais comme il me pressait avec beaucoup d'instance, la faim l'emporta définitivement sur l'orgueil, et je lui avouai de bonne foi que je n'avais pas d'argent dans ma poche. Non cependant sans avoir fabriqué un mensonge pour m'excuser, en attribuant ma pauvreté actuelle à ce que j'avais changé de vêtements le matin. Monsieur Watson me répondit, « Je croyais, Jacques, que nous étions, vous et moi, de trop anciennes connaissances pour parler de cela. » Il me prit alors par le bras et m'entraîna. Mais je lui donnai fort peu de peine, car mon propre penchant m'entraînait plus fortement encore qu'il n'aurait pu le faire. Nous dirigeâmes alors nos pas vers le quartier des moines, que vous savez être le rendez-vous du plaisir et de la gaieté. Quand nous fûmes entrés dans une taverne, M. Watson ne s'adressa qu'au garçon sommelier, sans penser seulement au cuisinier, car il ne pouvait soupçonner que je n'eusse pas encore dîné. Cependant, comme dans le fait il n'en était pas ainsi, Je forgeai un autre mensonge et je dis à mon compagnon que j'avais été à l'autre bout de la ville pour une affaire importante et que j'avais mangé à la hâte une côtelette de mouton, en sorte que j'avais encore faim et que je le priai de vouloir bien faire joindre à la bouteille de vin une tranche de bœuf grillé. « Il y a des gens, s'écria Partridge, qui auraient besoin d'avoir une bonne mémoire. Car, dites-moi, comment aviez-vous trouvé tout juste assez d'argent dans votre gousset pour payer la côtelette de mouton ?»« Votre observation est juste, répondit le vieillard, et je crois que tous les menteurs sont sujets à faire de pareilles bévues. Mais permettez-moi de poursuivre. Je commençais à me trouver assez heureux. La tranche de bœuf et le vin avaient ranimé mes esprits, et je goûtais, dans la conversation de mon ancien camarade, un plaisir d'autant plus vif que je ne le croyais nullement instruit de ce qui s'était passé à l'université depuis qu'il en était sorti. Mais il ne me permit pas de rester longtemps dans cette agréable erreur, car prenant un verre d'une main et serrant la mienne de l'autre, « Allons, mon garçon, s'écria-t-il, à la joie que je ressens de ce que vous avez été si honorablement acquitté de l'accusation portée contre vous. » Je fus frappé comme d'un coup de tonnerre à ces mots. Watson, qui observa ma confusion, poursuivit ainsi, « Allons, sois homme, point de honte. Tu as été acquitté et personne n'ose plus dire que tu sois coupable. Mais je t'en prie, conviens-en avec moi qui suis ton ami, j'espère que tu l'as réellement volé. Que je sois déshonoré si ce n'était pas un acte méritoire de dépouiller ce vil et lâche faquin, et au lieu de 200 guinées, je voudrais que tu eusses pu lui en prendre 2000. Allons, allons, mon garçon, ne sois pas honteux de te confesser à moi. Tu n'es pas ici devant un mouchard. Le diable m'emporte si je ne t'en honore davantage, car sur le salut de mon âme, je ne me serais fait aucun scrupule d'en faire autant. » Cette déclaration me releva un peu de mon abattement, et comme le vin commençait à m'épanouir le cœur, je lui confessai franchement le vol. Mais je l'instruisis qu'on l'avait trompé sur la somme que j'avais prise, et qui n'était guère plus que la cinquième partie de celle dont il avait parlé. « J'en suis fâché de tout mon cœur, dit Watson, et je te souhaite un meilleur succès une autre fois. Mais si tu veux suivre mon avis, tu ne t'exposeras plus désormais à courir en pareil danger. Et voici le moyen, dit-il, en tirant des dés de sa poche. Voici les nouveaux instruments de ta fortune. Voici les petits docteurs qui guériront les maladies de ta bourse. Suis seulement mon conseil, et je te montrerai comment on peut vider la poche d'un sot qui se croit fin, sans courir le risque de passer pour un fripon et de planer dans les nues. Planer dans les nues, dit Partridge. Je vous en prie, monsieur, qu'est-ce que cela? C'est, monsieur, répondit le vieillard, un jargon convenu pour dire la potence. La morale des joueurs différant peu de celle des voleurs de grand chemin, ils se ressemblent beaucoup dans leur langage. Nous avions bu chacun notre bouteille quand monsieur Watson me dit que l'on était assemblé autour de la table de jeu, et qu'il devait s'y rendre. Il me pressa en même temps, avec les plus vives instances, de l'y accompagner et de tenter la fortune. Je lui répondis qu'il savait bien que cela m'était impossible pour le moment, puisque je l'avais informé que ma bourse était vide. À dire vrai, je ne doutais pas un instant, après toutes les fortes assurances d'amitié qu'il m'avait données, qu'il ne s'offrit de lui-même à me prêter une petite somme pour cet objet. Mais il me répondit, « Ne t'embarrasse pas de cela, mon ami, va, cours, expose-toi hardiment à l'aborder. » Partridge allait encore demander la signification de ce mot, mais Jones lui ferma la bouche. « Prends seulement garde au joueur que tu auras devant toi. Je t'indiquerai de l'œil celui dont tu pourras faire ta dupe, car tu ne connais pas la ville, et tu ne pourrais pas distinguer le fripon adroit du sot qui croit l'être. » Quand on eut apporté le mémoire de la dépense, Watson paya sa part et se disposait à s'en aller. Je lui rappelai, non sans rougir, que je n'avais pas d'argent sur moi. « Cela ne fait rien, me répondit-il, l'écho est derrière la porte. Échappe-toi sans rien dire, ou bien fais un bruit du diable et ne t'embarrasse pas. Ou bien reste, je vais descendre le premier, tu t'empareras de l'argent que je vais laisser sur la table, tu paieras le surplus de la dépense au comptoir, et je t'attendrai au coin de la rue. » Je lui témoignai ma répugnance pour cette escroquerie, et lui fis entendre que j'avais espéré qu'il paierait le tout, mais il me jura qu'il n'avait pas 6 sous de plus dans sa poche. Il descendit alors, et je me vis dans la nécessité de ramasser son argent et de le suivre. Ce que je fis avec assez de prestesse pour l'entendre dire au garçon qu'il avait laissé son argent sur la table. Celui-ci passa près de moi en montant, mais je fus si prompt à gagner la rue que je n'entendis aucune de ses plaintes, et je payai au comptoir, suivant mes instructions, sans prononcer une syllabe. Nous nous rendîmes sur le champ à la table de jeu, où, à ma grande surprise, M. Watson, comme beaucoup d'autres, tira de sa poche une forte somme en or et la plaça devant lui. Je ne doute pas que chacun des joueurs ne considéra sa mise comme devant, à l'instar de ces oiseaux dont on se sert pour attraper les autres, attirer bientôt à lui la mise de ses voisins. Je vous ennuierais si je voulais vous raconter tous les tours que la fortune, par le ministère des dés, jouait à ses adorateurs dans ce lieu dont elle avait fait son temple. Des montagnes d'or s'aplanissaient en un moment d'un côté de la table et s'élevaient aussi rapidement de l'autre, en sorte qu'il me semblait qu'un instituteur philosophe n'aurait pu trouver un lieu plus convenable pour enseigner à ses élèves le mépris des richesses, ou tout au moins leur instabilité. Quant à moi, après avoir considérablement augmenté ma petite fortune, je finis par reperdre tout. Il en fut de même de M. Watson, qui, après avoir épuisé presque toutes les chances, se leva de table un peu échauffé, en déclarant qu'il avait perdu 100 guinées, et ne jouerait pas davantage. Puis, s'adressant à moi, il me proposa de retourner à la taverne avec lui, ce que je refusai positivement, en lui disant que je ne voulais pas me mettre une seconde fois dans le même embarras, d'autant qu'il avait perdu lui-même tout son argent et se trouvait dans la même position que moi. « Bah, dit-il, je viens d'emprunter 2 guinées à un ami, et il y en a une à ton service. » Il la mit aussitôt dans ma main, et je ne résistai pas plus longtemps à ses désirs. Je fus d'abord un peu choqué qu'il me proposa de retourner à la même taverne que nous avions quittée d'une manière si malhonnête. Mais quand le garçon, s'adressant à nous très poliment, nous eut dit qu'il croyait que nous avions oublié de payer notre écho, je me sentis parfaitement à l'aise, lui donnai très promptement ma guinée, et lui dis de se payer lui-même, en me résignant très volontiers aux reproches injustes qu'il venait de faire à ma mémoire. M. Watson commanda aussitôt le souper, le plus extravagant qu'on puisse imaginer, et quoiqu'il se fût contenté auparavant de simples « claret », il ne voulut pas qu'on servît d'autre vin que du Bourgogne, et le plus vieux. Notre compagnie fut bientôt augmentée de celle de quelques joueurs qui venaient de quitter le lieu de leur séance. Mais le plus grand nombre d'entre eux étaient venus à la taverne moins pour boire, comme je ne tardais pas à m'en apercevoir, que pour y faire leurs affaires, car les joueurs de profession prétendirent qu'ils étaient malades, et refusèrent même un verre de vin, pendant qu'ils étaient à friponner 2 jeunes gens qui devaient être bientôt après tout à fait dépouillés, comme ils le furent en effet sans miséricorde. J'eus le bonheur d'avoir ma part du butin, quoique je ne fusse pas encore dans le secret. Il y eut quelque chose de bien remarquable à cette partie, c'est que l'argent disparut insensiblement tout à fait. En sorte que, quoique au commencement la table fût à moitié couverte d'or, cependant, avant la fin du jeu qui dura jusqu'au lendemain midi, jour de dimanche, on voyait encore à peine une seule guinée sur la table. Et elle appartenait à l'un des 2 étrangers, sans doute, car tous ceux qui étaient présents, excepté moi, déclarèrent avoir tout perdu. Ce que l'argent était devenu, voilà ce qu'il est difficile de dire, à moins que le diable lui-même ne l'eût emporté. « Et c'est certainement ce qu'il a fait, dit Partridge, car les esprits malins peuvent tout emporter sans être vus, quand il y aurait encore plus de monde présent, et je n'aurais pas été étonné qu'il eût aussi emporté toute la troupe composée de méchants et d'impies qui jouaient pendant le sermon. Et si je voulais, je pourrais vous dire une histoire bien véritable, où le diable enleva un homme du lit de la femme d'un autre homme et l'emporta par le trou de la serrure. J'ai vu la maison même où cela s'est passé, et personne ne l'a habité depuis 30 ans. » Quoique Jones fût un peu blessé de l'impertinence de Partridge, il ne put s'empêcher de sourire de sa simplicité. Le vieillard en fit autant et continua son histoire, comme on le verra dans le chapitre suivant. Chapitre 13, dans lequel l'histoire précédente continue. Mon camarade de collège venait de me faire entrer sur un nouveau théâtre. Je fus bientôt lié avec toute cette bande de chevaliers d'industrie et admis dans la confidence de leurs secrets, je veux dire à la connaissance de ces ruses grossières qui ne peuvent en imposer qu'aux sots et aux jeunes gens sans expérience. Car il y a des tours plus fins qui ne sont connus dans la bande que du petit nombre des chefs, et je ne pouvais pas prétendre à ce haut degré d'honneur. Le vin, auquel j'étais adonné avec excès, et l'emportement naturel de toutes mes passions, ne me permettaient pas d'espérer de grands succès dans un art qui exige autant d'empire sur soi-même que la pratique la plus austère de la philosophie. M. Watson, avec lequel je vivais alors, dans la plus étroite intimité, portait malheureusement le premier de mes vices encore plus loin que moi. De sorte qu'au lieu de faire une grande fortune dans sa profession, comme tant d'autres, il se trouvait alternativement riche et pauvre, et était souvent obligé de rendre à la taverne, à ceux de ses amis plus froids et plus sobres que lui, le butin qu'il avait fait sur quelques sots au lieu ordinaire des séances publiques. En conséquence, nous en étions toujours aux expédients, et menions une vie fort misérable. Cependant, je continuais le même métier l'espace de 2 ans, pendant lesquels j'éprouvais toutes les chances de la fortune, tantôt nageant dans l'abondance, tantôt obligé de me débattre contre la misère, avec des difficultés presque insurmontables. Un jour, nous faisions des dépenses ruineuses pour un seul repas, le lendemain, nous nous trouvions heureux de nous soutenir avec les aliments les plus grossiers, et je portais souvent le soir des habits superbes qui, dès le lendemain matin, retournaient chez le prêteur sur gage. Un soir que je revenais sans un sou de la salle de jeu, j'entendis un fort grand tumulte et vis beaucoup de monde rassemblé dans la rue. Comme je n'étais pas en danger d'être volé, je m'aventurai dans la foule où je vis un homme qui, me dit-on, venait d'être volé et fort maltraité par des scélérats. Le blessé était tout couvert de sang et paraissait hors d'état de se soutenir sur ses jambes. Comme je n'avais pas perdu tout sentiment d'humanité, malgré la vie que je menais et la société que je fréquentais, qui d'ailleurs m'avait presque fait perdre toute pudeur et toute honnêteté, j'offris sur le champ mes secours à ce malheureux inconnu qui les accepta avec reconnaissance, et se confiant entièrement à moi, me pria de le conduire à quelque taverne d'où il put envoyer chercher un chirurgien. Car il se sentait, me dit-il, extrêmement affaibli par la perte de son sang. Il me parut très content d'avoir rencontré dans cette foule un homme proprement vêtu, l'extérieur de tous ceux qu'il a composés avec moi étant tel qu'on ne pouvait sagement placer sa confiance en eux. Je pris le pauvre homme par le bras et le conduisis à la taverne où nous nous réunissions ordinairement, car elle se trouvait la plus proche. Un chirurgien qui se trouva heureusement dans la maison fut appelé sur le champ et se mit à panser ses blessures. J'eus le plaisir de lui entendre dire qu'elle n'était pas mortelle. Le chirurgien, après avoir terminé son opération avec autant de promptitude que de dextérité, demanda au blessé dans quel endroit de la ville il demeurait. Celui-ci répondit qu'il était arrivé à Londres le matin même, que son cheval était à une auberge dans Piccadilly, qu'il n'avait point d'autre logement et peu ou point de connaissances à Londres. Le chirurgien, dont j'ai oublié le nom, quoique je me rappelle fort bien qu'il commençait par un R, était un des premiers de son état et chirurgien du roi. Il avait d'ailleurs beaucoup de bonnes qualités. Il était humain, généreux et prêt à rendre toutes sortes de services à ses semblables. Il offrit sa voiture à son malade pour le conduire à son auberge et lui dit en même temps à l'oreille que s'il avait besoin d'argent, il lui en fournirait. Le pauvre homme, en ce moment, n'était pas en état de le remercier de son offre généreuse, car, ayant tenu les yeux attentivement fixés sur moi pendant quelque temps, il se laissa tomber sur sa chaise en s'écriant « Oh, mon fils !» et il s'évanouit. Beaucoup de ceux qui étaient présents imaginèrent que cet accident était la suite du sang qu'il avait perdu. Mais moi, qui au même moment commençais à reconnaître les traits de mon père, je fus alors confirmé dans mes soupçons et convaincu que c'était lui-même. Je m'élançai aussitôt vers lui, je le serrai dans mes bras, je réchauffai ses lèvres avec les miennes. Je dois tirer ici le rideau sur une scène que je ne puis décrire, car, quoique je ne perdisse pas connaissance comme mon père, la crainte et la surprise s'étaient tellement emparées de tous mes sens que je ne sais absolument rien de ce qui se passa pendant quelques minutes, et même jusqu'à ce que mon père fût revenu à lui. Je me trouvai alors dans ses bras, nous embrassant tendrement et nous inondant l'un et l'autre de nos larmes. Presque tous les spectateurs parurent touchés de cette scène que nous désirions dérober à leurs yeux le plus tôt possible. Mon père accepta donc l'offre obligeante du chirurgien. Je montai avec lui dans sa voiture et l'accompagnai à son auberge. Quand nous nous trouvâmes seuls, il me reprocha avec douceur d'avoir négligé de lui écrire pendant un si long espace de temps. Mais il ne me parla point du crime qui avait été la cause de mon silence. Il m'instruisit ensuite de la mort de ma mère et insista pour que je retournasse à la maison avec lui, en me disant qu'il avait eu à mon sujet les plus vives inquiétudes, qu'il ne savait s'il avait plus craint que désiré ma mort depuis les alarmes qu'on lui avait inspirées à mon sujet. Il me dit enfin qu'un gentilhomme voisin, qui venait de retirer son fils du même collège, l'avait informé de ce que j'étais devenu, et que le projet de m'arracher à ce genre de vie était le seul motif de son voyage à Londres. Il rendait grâce au ciel d'avoir réussi à me découvrir par le moyen d'un accident qui avait failli lui être funeste. Il avait, ajouta-t-il, le plaisir de penser qu'il devait en partie sa conservation à mon humanité, ce dont il avoua qu'il était plus touché qu'il ne l'eût été de ma piété filiale si j'avais su que l'objet de tous mes soins était mon père. Le vice n'avait pas assez dépravé mon cœur pour le rendre insensible à cet excès d'amour paternel, quoique j'en fusse presque tout à fait indigne. Je lui promis donc d'obéir à ses ordres et de retourner avec lui aussitôt qu'il serait en état de partir. Ce qui arriva peu de jours après, grâce aux soins de cet excellent chirurgien qui avait entrepris de le guérir. La veille du départ de mon père, jour avant lequel je ne l'avais presque pas quitté, j'allais prendre congé de quelques-unes de mes plus intimes connaissances, notamment de M. Watson, qui me dissuada d'aller m'enterrer dans le fond d'une campagne, et le tout par complaisance pour un vieux fou. Ces sollicitations ne produisirent cependant aucun effet sur moi, et je revis encore une fois la maison paternelle. Mon père ne tarda pas alors à me presser vivement de songer au mariage, mais loin que mon inclination m'y portât, la pensée même m'en était odieuse. J'avais déjà connu l'amour, et vous n'ignorez peut-être pas les excès extravagants dans lesquels entraîne cette passion, la plus tendre et la plus violente de toutes. Ici le vieillard s'arrêta et regarda attentivement Jones, dont le visage passa en une minute du plus vif incarnat à la plus extrême pâleur. Le vieillard, sans paraître y avoir fait attention, continua son récit. Ayant alors toutes les nécessités de la vie, je me remis à l'étude avec plus d'application encore que je n'avais fait auparavant. Les seuls auteurs avec lesquels je passasse mon temps étaient ceux qui, tant anciens que modernes, traitent de la vraie philosophie, mot que beaucoup de gens jugent à propos de tourner aujourd'hui en ridicule. Je lus tous les ouvrages d'Aristote et de Platon, ainsi que les autres chefs-d'œuvre inestimables que l'ancienne Grèce a légués au monde. Ces auteurs ne nous apprennent aucun des moyens par lesquels les hommes peuvent se promettre d'acquérir des richesses et de la puissance, mais ils nous enseignent l'art de mépriser tout ce qu'elles ont d'éblouissant. Ils élèvent l'âme, la fortifient et la rendent insensible aux revers soudains de la fortune. Non seulement ils nous conduisent à la connaissance de la vertu, mais ils nous empêchent de nous en écarter et nous démontrent clairement qu'elle doit être notre guide si nous voulons parvenir au plus haut degré du bonheur dont on puisse jouir dans le monde, et nous mettre en état de nous défendre avec quelque sécurité des maux qui nous menacent et nous investissent de toutes parts. À cette étude, j'en joignis une autre, auprès de laquelle toute la philosophie, enseignée par les plus sages d'entre les païens, n'a guère plus de réalité qu'un vain songe. Je veux parler de cette sagesse divine qu'on ne peut trouver que dans les saintes Écritures, puisqu'elle nous donne la connaissance et l'assurance de choses beaucoup plus dignes de notre attention que tout ce que le monde peut offrir à nos vœux, de choses que le ciel lui-même a daigné nous révéler et à la plus légère connaissance desquelles l'esprit humain le plus sublime ne peut s'élever sans l'assistance divine. Je commençais à croire que tout le temps que j'avais passé avec les meilleurs écrivains du paganisme était un peu plus que du temps perdu, car quelques plaisirs, quelques charmes que l'on goûte à leurs leçons, quelque inutile qu'elle soit pour diriger notre conduite dans le chemin de la justice, en ne considérant que ce monde, si on les compare à la gloire qui nous attend et qui nous est révélée dans l'Écriture, elles paraîtront aussi frivoles et d'aussi peu de conséquences que les règles établies par les enfants pour mettre de l'ordre dans leurs petits jeux quand ils sont en récréation. La philosophie nous rend plus sages, mais le christianisme nous rend meilleurs. La philosophie élève et fortifie l'âme, le christianisme l'adoucit. La première nous rend l'objet de l'admiration des hommes, la seconde celui de l'amour divin. Celle-là nous assure un bonheur temporel, celle-ci un bonheur éternel. Mais je crains de vous fatiguer de cette rhapsodie. Pas du tout, s'écria Partridge. Dieu nous garde d'être fatigués d'aussi bonnes choses. J'avais passé environ 4 ans, continua le vieillard, de la manière la plus délicieuse, abandonné à moi-même, entièrement livré à la contemplation et absolument étranger aux affaires du monde, quand je perdis le meilleur des pères, un père que j'aimais si passionnément que la douleur que je ressentis de sa perte surpasse tout ce que j'en pourrais dire. Je laissai là mes livres et m'abandonnai, pendant un mois entier, à tous les accès du désespoir et de la mélancolie. Cependant, le temps, le meilleur médecin de l'âme, vint enfin m'apporter du soulagement. « Oui, oui, » dit Partridge, « tempus edax rerum. » Je repris donc mes premières études, poursuivit le vieillard, et je puis dire qu'elles achevèrent ma guérison. Car l'étude de la philosophie et de la religion est aussi salutaire à une âme malade que l'exercice peut l'être à un corps faible et délicat. Elle produit absolument les mêmes effets. Elle fortifie l'âme et l'affermit jusqu'à ce que l'homme, suivant la belle expression d'Horace, devienne fort et qui tout entier renfermé dans lui-même, pour que rien au dehors ne trouble plus son cœur, sait braver la fortune et tromper sa rigueur. Ici, John sourit de je ne sais quelle idée qui vint à s'offrir à son imagination. Mais probablement le vieillard ne s'en aperçut pas. Il continua ainsi. Mon sort se trouva extrêmement changé par la mort du meilleur des pères. Mon frère, qui était alors devenu le maître de la maison, différait aussi étrangement de moi dans ses goûts qu'il en avait toujours différé dans l'emploi de sa vie, de manière que nous étions la pire des compagnies l'un pour l'autre. Mais ce qui nous rendait encore la vie commune plus désagréable était le peu d'harmonie qui existait entre le petit nombre de ceux que je voyais et la suite nombreuse des chasseurs que mon frère nous amenait souvent à dîner. Car ces sortes d'hommes, outre le bruit et les sottises dont ils fatiguent les oreilles des gens sages, se font un jeu de les insulter et les honorent de leur mépris. C'était au point que ni mes amis ni moi ne pouvions nous mettre à table avec eux sans être tournés en ridicule, par cela seul que nous n'entendions pas le langage des chasseurs. Les hommes véritablement instruits et qui ont des connaissances presque sur tout ont toujours pitié de l'ignorance des autres. Mais les petits esprits, qui excellent dans un art vil et méprisable, ne manquent jamais de mépriser ceux qui n'ont pas daigné s'en instruire. Enfin, nous nous séparâmes bientôt, et j'allais, d'après l'avis d'un médecin, prendre les eaux de Bath. Mon chagrin profond, joint à la vie sédentaire que je menais, m'ayant causé une sorte de paralysie pour laquelle ces eaux sont considérées comme un remède presque infaillible. Le second jour après mon arrivée, tandis que je me promenais le long de la rivière, la chaleur du soleil devint tout à coup si brûlante, quoique ce fût dans l'un des premiers mois de l'année, que je me retirai à l'abri de quelques saules et m'assis au bord de l'eau. J'y étais à peine lorsque j'entendis de l'autre côté des saules une personne qui soupirait et se lamentait amèrement. Et presque aussitôt, après la plus horrible imprécation, elle s'écria « C'en est fait, je ne la supporterai pas plus longtemps !» et elle se jeta dans la rivière. Soudain, je me levai et courus vers l'endroit d'où le son était parti, appelant en même temps au secours de toutes mes forces. Heureusement, il se trouva par hasard, un peu au-dessous de moi, un homme qui pêchait à la ligne, et qu'une touffe de joncs fort élevée ne m'avait pas permis d'apercevoir. Il se hâta de venir à moi, et tous deux, non sans avoir couru les plus grands risques, nous parvîmes à retirer le malheureux hors de l'eau. Nous n'aperçûmes d'abord aucun signe de vie, mais l'ayant levé et soutenu quelque temps les pieds en l'air, il rendit une grande quantité d'eau par la bouche. Enfin, il commença à respirer, et peu après à faire quelques mouvements. Un apothicaire qui se trouva présent fut d'avis que le corps, qui paraissait avoir rendu suffisamment d'eau et commençait à avoir de fréquentes convulsions, fut transporté sur le champ et mis dans un lit bien chaud, ce qui fut exécuté sans délai. Nous l'accompagnâmes, l'apothicaire et moi. Comme nous le conduisions à une auberge, car nous ignorions où cet homme logeait, nous rencontrâmes heureusement une femme qui, après avoir jeté un cri perçant, nous dit qu'il demeurait chez elle. Quand nous l'eûmes déposé dans cette maison, je le laissai aux soins de l'apothicaire, qui probablement le traita dans les règles, car j'appris le lendemain qu'il avait parfaitement repris tous ses sens. J'allais lui faire visite, avec le projet de m'instruire autant qu'il serait possible, du motif qui lui avait fait commettre une action si désespérée, et de l'empêcher de tout mon pouvoir de persister à l'avenir dans des intentions aussi criminelles. Je ne fus pas plutôt admis dans sa chambre que nous nous reconnûmes tous deux sur le champ. C'était mon bon ami Watson. Je ne vous fatiguerai pas du récit de ce qui se passa à notre première entrevue, car je voudrais éviter la prolixité autant que possible. « Dites-nous tout, je vous prie, » s'écria Partridge. « Je suis extrêmement curieux de savoir ce qui l'avait amené à Bath. » Vous saurez tout ce qui s'est passé d'intéressant, répondit le vieillard. Et il continua de raconter ce que nous allons continuer d'écrire, après avoir laissé reprendre un moment haleine au lecteur et à nous-mêmes.